Personne n'est parfait et tout le monde a ses défauts. Voilà une bonne façon de définir Monsieur Tout-le-Monde, vous et moi. Et ce qui est vrai pour une personne va aussi pour toute organisation humaine, serait-ce une église. Certains travers sont peu importants, tandis que d'autres ont besoin d'être corrigés dans les délais les plus brefs. C'est le cas pour l'église de Thyatire. Pourtant, à plusieurs niveaux, ces croyants sont un modèle de vie chrétienne au point où Jésus leur a dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Ces braves chrétiens croissent dans la grâce de Dieu et par leur témoignage, ils font avancer la cause de Jésus-Christ. Oui, mais le tableau n'est pas tout rose. Malgré ces preuves de vitalité et de témoignages indéniables, l'église de Thyatire a de graves problèmes. Comme pour Éphèse et Pergame, Christ fait d'abord l'éloge de l'église de Thyatire avant d'exprimer sa désapprobation. Je continue à lire dans le second chapitre du livre de l'Apocalypse. « Pourtant, j'ai un reproche à te faire. » Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Verset 20. Après les Nicolaïtes et le devin Balaam, voilà un autre personnage des plus sinistres. Décidément, les chrétiens de la province d'Asie les collectionnaient. Cette femme, du nom de Jézabel, se fait passer pour une prophétesse, mais comme les deux autres larrons, elle enseigne à ses ouaves à participer aux partous organisés par les païens dans le cadre de leur culte aux idoles, ainsi qu'à manger des viandes sacrifiées à ces mêmes idoles. Ces fautes reviennent comme un refrain. Elles sont très graves et avaient été relevées par le Concile de Jérusalem comme devant être absolument à éviter. Le problème de l'église de Thyatire ne vient pas de l'extérieur, de persécution, mais de l'intérieur, de gens corrompus qui noyautent l'assemblée. Le ver est dans la pomme, en quelque sorte. Jézabel est le nom de l'infâme épouse d'Akab, le roi des 10 tribus du Nord. C'est à cause de cette femme ignoble que le culte de l'idole Baal s'est répandu en Israël. Jézabel, la fausse prophétesse, enseigne cette philosophie grecque très répandue comme quoi tout ce qui est spirituel est bon, mais ce qui est matériel, physique, est mauvais. Or, comme Dieu ne s'intéresse qu'à l'esprit, dit-elle, ce qu'on fait de son corps ne compte pas. Il s'ensuit que la débauche ou d'autres actes d'idolâtrie sont sans conséquence. De toute façon, dit-elle encore, peu importe si les chrétiens commettent des fautes, puisque dans sa grâce, Dieu leur pardonnera, mais c'est oublier que l'apôtre Paul s'est élevé de toute sa hauteur contre un tel raisonnement quand il écrit « Que dire maintenant ? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? » Je continue la lecture du chapitre 2. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne se repente, en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Versets 21 à 23. Ces fautes morales durent depuis déjà un moment, puisque le Seigneur dit avoir attendu jusqu'à présent pour que tous ces gens qui ont un mode de vie corrompu se repentent. Cependant, nul ne l'a fait. Ni la nouvelle Jézabel, ni les enseignants de mensonges du même gabarit que Jésus appelle ses compagnons de débauche, ni les disciples de la prophétesse. Il souffle un vent de rébellion, et cette attitude ne va pas manquer de déclencher un jugement terrible symbolisé par un lit de grande détresse. Une tragédie qui n'est pas précisée, mais qui viendra du Seigneur. Cependant, la façon dont Jézabel, femme d'Akab, est morte, donne un aperçu de ce qui attend ces hérétiques s'ils persistent dans leur péché. Je lis le passage. Jézabel se farda les yeux, arrangea sa chevelure et se pencha à la fenêtre pour regarder. Lorsque Jéhu eut franchi la porte de la ville, elle lui cria « Viens-tu pour la paix, nouveau Zimri, assassin de ton Seigneur ?» Il leva les yeux vers la fenêtre et s'écria « Qui de vous est pour moi ? Qui donc ?» Alors deux ou trois chambellans se penchèrent vers lui aux fenêtres. Il leur ordonna « Jetez-la en bas !» Ils la précipitèrent dans le vide et son sang éclaboussa le mur et les chevaux. Jéhu passa sur elle avec son char, puis il entra dans le palais pour manger et pour boire. Ensuite, il ordonna à ses compagnons « Occupez-vous de cette femme maudite et enterrez-la. Après tout, c'est une fille de roi. » Ces hommes allèrent pour la mettre au tombeau, mais ils ne trouvèrent d'elle que son crâne, ses pieds et ses mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui s'écria « C'est bien ce que l'Éternel avait annoncé par son serviteur Élie de Tishbé lorsqu'il a déclaré « Les chiens dévoreront le corps de Jézabel dans le champ de Jisréel. Les restes du cadavre de Jézabel seront dispersés comme du fumier épandu sur le sol du champ de Jisréel, de sorte que personne ne pourra dire « C'est Jézabel ». Le jugement sévère que Jésus promet d'infliger à la fausse prophétesse, aux faux enseignants et à leurs disciples montre sa passion pour son Église et combien il désire ardemment qu'elle soit absolument pure autant sur le plan doctrinal qu'au niveau du comportement de ses membres. Il fera donc le nécessaire pour éliminer le péché du sein de son peuple. Cette réalité a de quoi faire réfléchir tous ceux qui ont un ministère d'enseignement. L'apôtre Jacques écrit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Quant aux croyants, ils doivent s'assurer que ce qu'on leur dit est bien conforme aux Écritures. Sinon, tôt ou tard, eux aussi seront punis pour s'être laissés tromper. Aucune excuse n'est admissible. Cela dit, et d'après ce que Jésus dit, l'heure du châtiment n'a pas encore sonné pour tous ces gens. Cela signifie qu'il n'est pas trop tard pour que tous ces rebelles changent d'attitude et de comportement. Je continue la lettre à l'église de Thyatire. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Verset 23. Dans l'Ancien Testament, celui qui sonde les pensées et les désirs secrets désigne l'Éternel. Mais ici, cette phrase est appliquée au Seigneur Jésus parce qu'il est le Fils de Dieu et l'égal du Père. Les pensées et les désirs secrets sont littéralement les reins, mais en fait, ils représentent la partie psychique d'une personne, ses pensées, ses mobiles, ses priorités, ses sentiments, ses objectifs, absolument tout. Si la fausse prophétesse, les autres enseignants de mensonges qui la secondent et tous leurs disciples ne se repentent pas et vite, ils seront frappés d'un châtiment dont ils ne se relèveront pas. Et quand celui-ci les atteindra, toutes les églises l'apprendront et réaliseront que rien n'échappe au regard pénétrant du Seigneur, qu'il ne tolère pas indéfiniment le péché dans son Église et qu'il prend des mesures disciplinaires. L'histoire rapporte que, dans son ensemble, l'église de Thyatire n'a pas changé de cap. Au contraire, elle adhéra au montanisme, une hérésie qui avait à sa tête un faux prophète prétendant recevoir de nouvelles révélations de Dieu, une prétention arrogante qu'on trouve encore aujourd'hui dans toutes les sectes. L'histoire rapporte aussi que l'église de Thyatire fut jugée par Dieu qui mit fin à son existence vers la fin du second siècle. Je continue le texte de l'Apocalypse. « Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. » Verset 23. Les croyants de l'église de Thyatire qui ne suivent pas la prophétesse Jézabel ne seront pas punis en même temps que les autres. Cependant, nous avons tous un rendez-vous incontournable avec le Créateur et il n'y a vraiment aucun moyen de l'éviter. Or, ce jugement se fera selon les œuvres de chacun, ce qui est un thème fréquent dans les Écritures. Jésus lui-même a déclaré « Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Et l'apôtre Paul écrit que « Le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu, ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. » Et concernant un certain Alexandre, orfèvre de son état, Paul dit qu'il a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. « Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. » La façon d'agir de quelqu'un a toujours été le fondement du jugement de Dieu parce que son comportement révèle son état spirituel et moral, en fait. Si la foi ne conduit pas à de bonnes œuvres, à des actes concrets, elle n'est pas authentique mais morte. L'apôtre Paul déclare que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Cependant, si la foi véritable se traduit inéluctablement en actes qui sont justes aux yeux de Dieu, l'inverse n'est pas vrai. La foi d'abord et les œuvres ensuite, et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des gens qui sont naturellement enclins à être bons, à se donner jusqu'au sacrifice pour les autres, et pourtant, ces personnes n'ont pas une foi personnelle en Jésus-Christ. Les œuvres ne peuvent sauver quiconque. Par contre, celles qui sont répréhensibles condamnent. Et ce sont les bonnes et mauvaises actions de quelqu'un qui déterminent le niveau du châtiment éternel. Quand sonnera le jugement dernier, le texte dit « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts, on ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés. » Chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Ce qui scelle la destinée éternelle de quelqu'un est sa présence ou pas dans le livre de vie. Si son nom ne s'y trouve pas, il subit la seconde mort, et son degré de châtiment dépend de la façon dont il a mené sa vie ici-bas. À bon entendeur, salut. Je continue la lettre à l'église de Thyatire. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Verset 24. Après avoir lancé une sérieuse mise en garde à ceux qui épousent les erreurs grossières de Jézabel, la fausse prophétesse, et de sa suite, Jésus adresse une exhortation à ceux qui ne sont pas devenus apostats, à ceux qui lui sont restés fidèles. En tout temps, même quand l'apostasie était à son comble, comme au Moyen-Âge, il y a toujours eu un petit groupe d'hommes et de femmes qui, envers et contre tout, plaçaient leur confiance en Jésus et en lui seul. À l'époque de Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, le peuple juif s'était bien écarté de la loi de Moïse. Pourtant, là encore, tous les Israélites n'avaient pas basculé dans l'impiété. On lit que ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand Jésus mentionne les profondeurs de Satan, il parle sur un ton ironique. Il s'agit d'un enseignement secret du genre de ceux qui étaient et qui sont toujours très répandus dans les religions à mystère. Dès le premier siècle, elles ont pullulé et n'ont jamais cessé d'être à la mode. Ici, ces profondeurs consistent en un savoir occulte réservé aux initiés de la secte conduite par la nouvelle Jézabel. Elle enseigne qu'on peut se plonger dans tous les péchés de la chair et en sortir indemne, c'est-à-dire sans nuire ni à son âme ni à son esprit. Bien entendu, les adeptes de cette hérésie ne se contentent pas d'une connaissance intellectuelle, mais passent à l'acte. Ils s'adonnent à toutes sortes de pratiques idolâtres et immorales, ce qui montre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que cette hérésie banale manque singulièrement d'originalité. Je continue la lettre. « Mais tenez fermement ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. » Verset 25. Le verbe grec traduit par « tenez fermement » sous-entend qu'il va être difficile pour les chrétiens fidèles de tenir bon jusqu'à ce que Jésus vienne pour juger les apostats. Ces braves croyants sont coincés entre le marteau et l'enclume, en quelque sorte. Ils fréquentent une église où beaucoup de membres fricotent avec l'idolâtrie ambiante, mais ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs, et puis partir entacherait le témoignage de toute la communauté chrétienne de la ville de Thyatire. Je continue la lettre. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Verset 26. À ceux qui, en dépit des coups et du mépris dont ils font l'objet ici-bas, persévèrent et restent fidèles jusqu'au bout, Jésus fait deux promesses. Premièrement, ils dirigeront les nations. Et pour bien enfoncer le clou, l'apôtre Jean cite une parole d'un psaume auquel les premiers chrétiens attachaient beaucoup d'importance parce qu'il fait référence au règne du Christ pendant le millénium. Jean écrit que le Messie dirigera les nations avec un sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile. Verset 27. Cette citation revient encore deux fois dans le livre. Quand le Seigneur établira son royaume de 1000 ans, il déléguera son autorité aux vainqueurs et ces hommes et ces femmes qui auront ainsi prouvé leur fidélité participeront activement au gouvernement du royaume terrestre du Christ. Ils feront régner la justice et veilleront à promouvoir la sainteté sur toute la terre. Ils seront chambellans, ministres, ambassadeurs et que sais-je encore. Je continue le texte. Au vainqueur, je donnerai autorité sur les nations ainsi que j'en ai reçu, moi aussi, le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Verset 28. Cette autorité que Jésus donnera au vainqueur est celle qu'il a lui-même reçue du Père. Dans l'évangile de Jean, il dit que ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Jésus promet donc, d'une part, qu'il transférera son autorité aux membres fidèles de son peuple, et ceux-ci exerceront à ses côtés le gouvernement des nations. D'autre part, Jésus donnera à ses vainqueurs l'étoile du matin. Dans la conclusion du livre de l'Apocalypse, on lit Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Dans le royaume des cieux, tout le monde ne sera pas au même niveau, car il y aura des différences hiérarchiques entre les rachetés. Jésus donnera l'étoile du matin au vainqueur, c'est-à-dire qu'il se révélera davantage à ceux qui auront accepté de souffrir pour lui. Je finis la lettre à l'église de Thyatire et le second chapitre de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, verset 29. Cette lettre se termine par une invitation familière qu'on retrouve à la fin de chaque missive adressée aux sept églises. Mais contrairement aux trois lettres précédentes, cette exhortation fait suite à la promesse au vainqueur au lieu de la précéder. Un nouvel ordre qui est maintenu dans les lettres suivantes. Bien que nous baignions dans une immense cacophonie, j'ai l'obligation de dresser l'oreille, d'écouter et de mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole.